Donc bonjour à tous. Je vous remercie Philippe et son épouse donc qui était venue aussi à Pantin. C'est une joie de vous rencontrer. Alors je disais au pasteur Daniel, je ne sais pas s'il est là. Si. Enfin, merci pasteur. On s'était à chaque fois qu'on se rencontre, c'est autour d'un repas. Parce que quand j'étais à Tours avec le pasteur Daniel, il m'avait invité à manger avec un groupe de Chinois à Tours. Et puis voilà, on se retrouve ici. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer ce midi. Mais voilà, je suis heureux d'être parmi vous. Et voilà, peu importe où on voyage, où le Seigneur nous envoie, c'est une joie de découvrir la famille de Dieu. Et je vois qu'ici, il y a beaucoup de cultures aussi. Il n'y a pas que des Chinois. Moi, j'ai grandi dans la banlieue à Grigny. J'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Et c'est vrai que j'étais habitué à un mélange de cultures. J'ai rencontré le Seigneur aussi quand j'ai à peu près 16-17 ans. Et j'ai ensuite fait mes armes, ou en tout cas j'ai grandi dans la foi, dans une église qui était africaine, antillaise. Il y avait beaucoup de diversité, donc c'est vrai que j'aime aussi. Je voyage aussi dans différentes églises. Et ce matin, c'est une joie pour moi d'être avec vous. Alors, je vais juste prendre 5 minutes pour me présenter. Vous décomptez ça de mon temps. Et sinon, je vais surveiller l'heure quand même. Mais aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis responsable d'une œuvre aussi qui s'appelle Psalt. C'est comme ça que j'ai rencontré Philippe aussi. On fait des séminaires, des formations sur la louange et l'enseignement biblique. Mais avant, j'ai travaillé pendant des années. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait mes études. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le monde de la finance. Donc j'étais gérant de fonds d'investissement avant. Mais pendant toutes ces années où j'ai rencontré le Seigneur, j'avais au fond de moi cet appel. Et je me suis dit, un jour, je voudrais dédier plus de temps pour le Seigneur. Et mon pasteur, je me rappelle à l'époque, alors dans mon église, on n'était pas très institut biblique. Hein. C'était, t'as la Bible, t'as le Saint-Esprit, c'est bon. Quand le Seigneur va t'appeler, tu verras. Donc il m'a dit, pour l'instant, tu continues. j'ai continué mes études. Et c'est comme ça qu'après, j'ai atterri dans la finance. Donc j'ai été trader, puis gérant de fonds d'investissement. Donc j'étais vraiment au cœur de la salle des marchés. Et plus les années passaient, plus je me disais, j'ai comme l'impression de devenir responsable, mais plus je vais haut et plus j'ai l'impression d'être dans la mafia. C'est comme si tu deviens responsable. Donc, chez les Américains, il y a des titres. Donc, moi, je travaille chez JP Morgan. Donc, je suis passé de Grigny, qui est apparemment, d'après un reportage qu'il n'y a pas longtemps, là, 10 jours ou 15 jours, le maire s'est plaint au président. Ils ont dit que c'était la ville la plus pauvre de France, à la place Vendôme, où là, c'était la place la plus chère de France, peut-être. En tout cas, l'une des plus chères. Et dans ce monde-là, je ne me sentais pas à ma place. Je me disais, le Seigneur m'a béni, m'a permis de découvrir d'autres sphères, de pouvoir rendre témoignage, mais ils m'ont proposé d'aller à Londres, et là, j'avais l'impression vraiment de... J'étais chrétien, mais au fond de moi, c'était comme si un peu je perdais mon âme. Je vous le dis en expression, j'avais pas l'impression de perdre mon salut, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui s'éteignait. Et là, l'appel de Dieu était plus fort, et je me suis dit, non, je n'irai pas à Londres. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment tourner vers le Seigneur en me disant, je vais le servir avec tout mon temps, mais je ne voulais pas être pasteur au début. Donc on a créé Psalt, une association où vraiment on a à cœur le cœur de mon ministère, c'est ça, encourager chacun, chaque personne, chaque communauté à adorer Dieu et rayonner pour Christ. Et donc on fait des séminaires, des formations, mais notre cœur vraiment c'est d'encourager les communautés aussi. Donc je remercie aussi toute l'équipe qui m'a accueilli, Clément qui a mené la louange aussi. Je ne l'avais pas vu mener les dernières fois qu'on s'était parlé. Mais j'ai passé un bon moment avec vous aussi. Et je passe toujours un bon moment avec vous. Et ce que je veux vous partager ce matin, c'est Philippe qui m'a donné le texte. C'est dans Deutéronome 30. Et j'ai décidé d'appeler ce message l'évangile de Moïse. Alors je vais essayer de vous démontrer que c'est bien l'évangile de Moïse et que c'est bien une bonne nouvelle. Je vais vous partager sans relire tout le passage. L'évangile de Moïse, on peut dire au cœur de ce passage, il y a cette interpellation, choisis la vie. Et moi je dirais, crois ou mets ta confiance en Dieu et tu auras la vie. Alors avant de rentrer dans le message, comme on a fait un peu connaissance, je voudrais savoir quand vous avez entendu ces paroles, quelle parole ou quel verset ou quelle phrase, parce que des fois il y a des versets qui ont plein de phrases, brièvement comme ça, parmi vous, quelle est la parole qui vous a le plus retenu ? Et je demanderai juste que vous disiez la parole, parce que si tout le monde commente, ça va être trop long. Mais si vous pouvez juste dire, voilà, moi c'est telle parole, ou moi c'est tel verset, ou moi c'est telle phrase. Voilà, est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui acceptent de partager ? Qu'est-ce qui vous a marqué quand on a lu ce passage dans Deutéronome 30 ? Qu'est-ce qui vous touche ? Quelqu'un ? Oui ? Voilà, cette phrase centrale, pardon, ça consomme à mes mains. Quelqu'un d'autre ? D'accord, voilà, même si les exilés sont loin, le Seigneur les ramènera là où ils sont dispersés. Peut-être deux, trois encore. Pour l'instant, on n'a entendu que deux sœurs. Hein. Je voudrais vous dire quand même, les frères. Philippe sauve l'honneur. C'était trop fort, je ne pouvais pas. Oui. L'Éternel circoncira ton cœur, d'accord. Quoi d'autre? Encore un ou deux autres courageux? Tu as déjà donné ton tour, mais vas-y s'il y en a une autre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, oui, c'est au cœur aussi. Comment? Comme? Ah, comme Nathan. C'est-à-dire ? L'Éternel circoncira ton cœur. D'accord. Allez, encore un dernier, ou une dernière. C'est bien, les frères se sont levés. Oui ? Ok. Bon, ça, c'est les paroles vraiment centrales. Hein. Vous avez visé en plein dans le mille. Je suis étonné en fait, parce qu'il n'y a personne qui a pris les promesses. Souvent, les versets que vous allez accrocher dans votre salon, dans les toilettes, ou dans le couloir, dans la chambre, ça va être ces paroles, voilà, le Seigneur, il va te bénir, quoi. Moi, dans la traduction que j'ai, le Seigneur va changer ta destinée, il va te montrer sa tendresse, te rassembler, s'il y en a qui ont dit ça. Et le Seigneur va te bénir. Il y a plein de bénédictions, quoi. Il va bénir le fruit de ton sein, c'est-à-dire, voilà, tu auras beaucoup d'enfants. J'ai vu qu'il y avait des enfants ici, ça fait plaisir. Moi, dans mon groupe francophone, ils sont encore trop jeunes, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Ça fait plaisir de voir les enfants, le Seigneur qui bénit tes enfants, le Seigneur qui bénit tes bêtes. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs parmi vous, mais ça veut dire que le Seigneur va bénir ton travail. Tu vas faire des projets, le Seigneur, le patron, Dieu va disposer son cœur pour qu'il dise « c'est bien ça ». Tu as une promotion, mais ce n'est pas toujours. Et bénir ton sol aussi, ça veut dire dans ton travail, dans ton labeur, le Seigneur va bénir ton travail. Ce pourquoi tu as transpiré, tu as sué, tu as étudié. Donc toutes ces promesses, voilà, c'est celles qu'on aime garder, celles qu'on aime entendre. Et c'est vrai que Clément, tout à l'heure, je saisis cette parole, il a dit, même si le Seigneur dit tout ça, c'est lui qui va le faire en nous, il va circoncire notre cœur. Et c'est vrai, vous avez souligné tout cela. Mais avant d'aller trop vite à ça, j'aimerais vous arrêter un instant sur Deutéronome, parce que je sais que Philippe il a une série dessus. Vous avez dû lire les chapitres précédents un peu. Et si vous lisez vraiment Deutéronome 27, 28, 29, il y a une liste de bénédictions. Elle tient en, je sais pas moi, une douzaine de lignes. Je crois que j'avais compté, hein, c'était ça. Ça s'arrête jusqu'au verset 14. Il y a une douzaine de lignes sur les bénédictions. Ensuite, vous lisez les malédictions. à partir de Deutéronome 28, 15. Et là, il y a 68 versets en tout, donc moins 14. Ça fait... C'est dimanche après-midi, après le repas, c'est dur. Donc, il y a 54 versets où Dieu parle des malédictions. C'est-à-dire, si tu m'obéis, je vais te bénir, mais attention, si tu m'obéis pas, voilà ce qui t'attend. Et la liste, elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus lourde aussi. Donc, il y a une tension dans ce passage, malgré tout. Il y a une vraie tension. Ça veut dire, Dieu dit bien, quand arriveront sur toi toutes ces choses ? Est-ce qu'on peut remettre le début ? Parce que j'ai peut-être pas la même traduction. J'utilise la TOB parce que sur certaines phrases, j'aime bien comment elle parle, c'est direct. Et c'est très proche de l'hébreu. Voilà, vous avez... Voilà, quand toutes ces choses arriveront, c'est bien ça. Hein. Ça veut dire, là, Dieu est en train de promettre la bénédiction, mais d'abord, il est en train de dire, souviens-toi quand tout ce malheur va t'arriver, qui va s'abattre sur toi parce que tu ne m'as pas écouté. Donc vous voyez qu'il y a une tension, il y a un climat de tension. Dieu dit, et c'est le Deutéronome, ça veut dire que la première fois, ils ont déjà désobéi. Dieu leur a donné la loi, il leur a dit aller dans ce pays, ils n'y sont pas entrés, ils se sont endurcis. La parole dit que toutes les paroles que Dieu leur avait données, elles n'ont pas porté de fruits parce qu'elles n'ont pas trouvé la foi chez ceux qui l'ont entendu. Dieu avait dit, allez-y, je vous livrerai ce pays. Ils n'y sont pas allés. Donc, ce n'était pas seulement une question d'obéir à la loi, il y a cette confiance en Dieu, la foi qui doit être placée en Dieu. Et on voit bien que c'est la clé, parce qu'ici, il dit, voilà, quand arriveront toutes ces choses-là, la bénédiction et la malédiction que j'avais mise devant toi, alors tu réfléchiras. Donc là, Dieu demande à son peuple, quand ça va t'arriver, réfléchis. Et moi, je trouve que c'est un passage qui parle bien en ce moment, réfléchis, parce qu'on vit le confinement depuis un an. Alors ici, c'est bien, vous reprenez le culte, béni soit le Seigneur. Nous, à Pantin, ça fait depuis un an qu'on n'a pas fait le culte en public. Et en janvier, on l'a fait pour la première fois le 4 janvier, mais moi, j'ai attrapé le Covid le jour d'après. Et du coup, pendant plusieurs semaines, j'étais malade. Et j'avais l'impression que l'invitation de Philippe était loin encore, et puis ça y est, c'est déjà là. Donc du coup, c'est une épreuve qu'on vit. Et le Seigneur dit, quand ça va t'arriver ? Peut-être certains parmi vous, je ne sais pas, n'ont pas pu reprendre leur activité. Est-ce qu'il y en a qui ont dû vraiment arrêter complètement leur travail, ou arrêter leur activité, ou fermer leur boutique, ou je ne sais pas ? Non, personne ? Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Ouais, deux. Ok, il y en a qui ont vraiment arrêté leur travail. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu leur travail ? Non ? Ah, plus ou moins ? Ok. Ah, il y en a un qui commence à passer par le chemin, là. Le chemin de la souffrance. Et le Seigneur dit, voilà, quand tout ça va t'arriver, et la bénédiction et la malédiction, alors réfléchis. C'est le point de départ du passage. Hein. Alors comment ça peut être une bonne nouvelle, du coup ? Maintenant que j'ai retourné un peu. Comment ça peut être une bonne nouvelle ? Et comment ça peut être l'évangile de Moïse ? Comment ça peut être lu comme une bonne nouvelle malgré tout ? Et donc, voilà, il y a 5 points que je veux souligner. Ils ne vont pas durer 10 minutes chacun, ne vous inquiétez pas. Mais le premier, c'est l'écoute. Dieu dit quand tout cela va t'arriver. Donc moi, j'ai parlé de ceux qui ont perdu leur activité, d'autres, ça va être la santé. Donc voilà, nous aussi, c'est parce que l'ancien dans l'église l'an dernier avait été malade aussi. C'est ce qui a fait que l'église chez nous a été très très prudente. Et puis la police aussi a eu des normes strictes, parce que la salle est grande. Beaucoup de contraintes qui font que, de toute façon, voilà, on a été contraints, frustrés certains. Et je pense que certains d'entre vous, dans votre vie personnelle, c'est pareil. On ne peut pas voir la famille comme on veut, on ne peut pas voir les amis comme on veut, on ne peut pas s'embrasser. Bon, je ne sais pas si dans l'église ici, vous faites facilement la bise ou pas. Mais en France, en tout cas, les gens aiment bien faire de grandes accolades et... Et ça, tout ça, c'est des contraintes, c'est des limites qu'on nous impose. Voilà, pour ceux qui ont des enfants, ben les enfants, c'est un coup on retourne à l'école, un coup c'est à distance, un coup c'est la moitié de la classe, un coup ça change tout le temps. Donc tout ça, c'est beaucoup de contraintes, et on voit que les gens ont beaucoup d'impatience parfois. Voilà, si vous conduisez, vous prenez la voiture, vous voyez des fois les gens qui s'énervent très très vite, ou si vous prenez les transports, peut-être vous devez le voir aussi. Et là, le Seigneur nous dit réfléchis. La première chose, écoute. Écoute, Deutéronome, vous vous souvenez ? C'est quoi la confession de foi de Deutéronome ? C'est vraiment la confession de foi juive du peuple hébreu. Vous vous souvenez ? Sûrement, vous l'avez entendu. Tu as levé la main ? Non ? Non, pardon. J'ai cru. Et... Oui, ça dit quoi ?
Écoute Israël.
Ça commence par ça. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Et ensuite, il parle de voilà, ce passage où il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. » Écoute Israël, c'est l'appel à une conversion du cœur. Dans Deutéronome 30, vous avez souligné « Dieu va circoncire notre cœur ». C'est un appel à la conversion du cœur. Écoutez la voix dans le désert quand Jésus va venir plus tard. Écoutez la voix dans le désert de celui qui annonce le serviteur. Écoute. Dieu utilise le langage poétique. C'est aussi le langage de l'amour, écoute. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, par exemple, elle dit « J'entends la voix de mon bien-aimé. » Il y a cette écoute. C'est pas seulement « Tu dois faire ça !» C'est « Écoute-moi. » Dieu dit « Écoute-moi. » Dieu dit « Écoute, je veux te parler. » Mais si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas entendre la voix du Seigneur. Dieu utilise un langage poétique, celui de l'amour, la voix de celui qui écoute. Jean-Baptiste, avec Jésus aussi, il dira « Moi, je suis celui qui est à côté de l'époux. J'entends la voix de l'époux et je me réjouis. » Parce que les gens ont dit « Est-ce que c'est toi le prophète qu'on attend ?» Il a dit « Non, moi, je suis celui qui est à côté. J'étais la voix dans le désert, mais moi, je me réjouis seulement à l'écoute de la voix de l'époux. Et l'époux, c'est Jésus, c'est le Christ. » Donc il y a cette écoute et au tout début, voilà le premier verset, deuxième verset, pardon. Tu reviendras jusqu'au Seigneur ton Dieu et tu écouteras sa voix. Plus tard encore, verset 8, alors toi tu écouteras de nouveau la voix du Seigneur, tu mettras en pratique tous ses commandements. C'est dans ce même chapitre. Verset 10 encore, tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu en gardant ses commandements. Et quand il dit, voilà, ce commandement n'est pas hors d'atteinte, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà, il y a cette proximité de la parole que Dieu nous donne pour écouter. Et verset 17, c'est encore pas fini, hein, le Seigneur dit, mais si ton cœur se détourne et tu n'écoutes pas, il y a encore cet avertissement. Donc l'écoute, écoute la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est aussi un appel pour nous tous à écouter dans le bruit de toutes ces nouvelles négatives, combien de morts ce soir ? Combien le nombre de malades, combien le nombre en réanimation. Moi, quand j'étais malade, il y a l'application Tous anti-Covid, je ne sais pas si vous l'avez, où vous avez toutes les stats, et tous les jours, je devais remplir le questionnaire pour dire est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien. Donc tous les jours, je revois les stats. Et si vous lisez ça tous les jours, si ceux qui regardent les news, si vous suivez ça matin, midi, soir, à la fin, c'est angoissant, parce qu'on ne fait que compter des morts. Ceux qui ont fait des statistiques dans les assurances, ils connaissent ça. Moi, j'ai étudié ça, c'était les tables de mortalité. Ils font des statistiques sur ça. Mais si vous vous nourrissez de ça, si vous écoutez ces nouvelles, vous n'allez pas nourrir la confiance, c'est l'angoisse qui va jaillir. Et en ce moment, c'est ça qu'on reçoit. On ne reçoit que des nouvelles de violence, de tension, de crise. Voilà, il y a eu un meurtre, pas loin d'ici, je crois, dans le 94, et des agressions. Je ne sais pas si c'est 94. En tout cas, il y en a eu dans l'Essonne. 77, et je crois aussi. Bon. Mais cette semaine, en tout cas, il y a eu 3-4 nouvelles comme ça, juste des jeunes qui s'agressent, qui s'entretuent. Donc on voit que voilà, il y a beaucoup de nouvelles difficiles, mais le Seigneur dit écoute, écoute ma voix, écoute Israël, écoute mon peuple. Être à l'écoute du Seigneur. Ensuite, reviens. Il dit parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura emmené, quand tu reviendras au Seigneur, quand tu reviendras. Et le thème du retour vers Dieu, c'est l'appel à la repentance. C'est « Reviens le Seigneur ». Jésus, quelle est la première prédication qu'il a faite ? Vous vous souvenez ? « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ça veut dire « Revenez vers Dieu ». Nous, souvent, on comprend la repentance seulement comme la pénitence, de dire « Oh, quel mauvais pécheur je suis !» Mais ce n'était pas seulement ça. Ce n'était pas s'apitoyer sur soi, c'était revenir au Seigneur, faire demi-tour. Ne pas continuer sa manière de vie, de vivre par soi-même, mais de mettre sa confiance en Dieu. Et là, Dieu dit bien, quand tu reviendras au Seigneur, et tu écouteras sa voix, pas seulement toi, mais aussi tes enfants, de tout ton cœur, tout ton être, alors le Seigneur va te bénir, changer ta destinée. Il te montrera sa tendresse. Il te rassemblera de nouveau. Voilà, ça c'est les promesses qu'on a lues tout à l'heure. Hein. il te rassemblera de nouveau parmi tous les peuples dispersés. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de peuples dispersés qui ont été ramenés ici. Il y a le Vietnam, il y a la Chine, il y a, même dans la Chine, il y a Canton, il y a Taïwan. Il y a plein de départements et de régions. Et il y a quoi d'autre encore parmi vous ici dans les nations dispersées ?
Le Gabon et la Guadeloupe.
Angola. Et il y a la France, bien sûr. Hein. Et qui on a oublié ici ? Madagascar ? Qui, toi ? Ah. Madagascar. Ok. Il y en a d'autres ?
Alsace.
Ah ! C'est la preuve que les Alsaciens ne se considèrent pas comme les Français de l'intérieur. Ok. Bon, voilà, moi, je suis d'origine par mon père du Portugal, ma mère, la Chine. Enfin, elle a grandi au Cambodge, mais elle est d'origine chinoise. Ils se sont rencontrés à Macao, mais j'ai grandi en France. Donc, je suis français. Mais j'ai la nationalité portugaise aussi. Et le Seigneur dit, voilà, si tu écoutes et si tu reviens, écoute, reviens, alors le Seigneur va te bénir. C'est un appel à faire marche arrière. Face à la bénédiction et à la malédiction, le Seigneur dit « Reviens, réfléchis et reviens. » Le malheur doit nous amener à réfléchir. En quoi nous plaçons notre confiance et de quoi dépend notre bonheur ? Par exemple, ceux qui ont subi les pertes financières, c'est sûr qu'ils doivent sentir ce que ça fait. Ça fait mal, c'est difficile. Et là, on se rend compte que même si on est chrétien et même si on met notre confiance en Dieu, quand on passe par des épreuves comme ça, là, personnellement, on se sent éprouvé. Et moi, j'avoue, quand j'ai quitté la finance pour m'engager dans le ministère, au début, je me disais, voilà, je vais servir le Seigneur, et puis Dieu va pourvoir mes besoins, pas de souci. Mais quand les années passent, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Et moi, ça m'a pris 7 ans, vraiment, pour faire la reconversion, comme on dit. Et là, j'ai appris vraiment le changement de modèle économique, on va dire. Avant, j'avais un bon salaire qui tombait tous les mois, j'ai un CDI... Je me dis oui, je fais confiance au Seigneur, mais en fait, j'ai aussi une stabilité qui fait que j'y pense même pas. Je me soucie pas de ça. Le jour où j'ai plus tout ça, et que les églises en plus sont compliquées, Philippe, c'est sûr, il connaît ça. Il cherche des serviteurs, mais après, quand on est là, d'accord, attends. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quand vous savez que vous avez une famille, des enfants, moi, mes enfants sont grands déjà, on se dit ok, comment on fait maintenant ? Et là, c'est pas seulement. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, voilà. Et le Seigneur, il est concret aussi. Quand il a sauvé Israël, il a dit, voilà, je vous ai sauvé à bras étendus. Je vous ai sorti d'Égypte, du joug de l'esclavage. Et je vous ai emmené dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu, il est concret aussi. Il veut que tu prennes soin de ta famille, de tes enfants, des besoins concrets. Et quand on vit ces choses-là, là, on se rend compte que notre confiance, humainement, elle dépend de beaucoup de choses, finalement. Pour les jeunes, la popularité, par exemple. Si je n'ai pas autant de likes, ou autant de vues, ou autant de réponses sur mes posts, ou sur mes messages, ou... Voilà. Ouh, la déprime. La dépression. Je n'ai pas autant d'amis, etc. La popularité. Même aujourd'hui, avec les églises, toutes les églises de la Terre, même celles qui ne voulaient pas utiliser Zoom, elles ont fini par être convaincues qu'il fallait faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, on a une multitude de choix sur Internet, et tout le monde va compter le nombre de vues. Combien de personnes ont vu la vidéo, le culte, le morceau de le chant, la louange, etc. Et c'est le nombre de vues qui fait foi. Ça veut dire les groupes ou les chants qui sont le plus connus dans l'église, c'est ceux qui ont fait le buzz. Donc j'imagine que même dans cette église, vous avez chanté la bénédiction l'an dernier ?
Non,
c'est vrai ? Bon. Ok, d'accord. Vous êtes contre-tendance. Donc c'est bien, vous ne laissez pas embarquer par tous les courants. Mais parmi les jeunes, malgré tout, c'est un constat. Voilà, c'est ça qui va faire foi. C'est l'écho parmi le groupe, la communauté des amis, la popularité. Et s'il n'y a pas cette réponse-là, je ne me sens pas valorisé. Je sens que finalement, soit ma vie ne vaut rien, ou je ne suis pas utile, ou voilà, il y a quelque chose qui va les toucher, qui va les frapper. La santé, avec le Covid, il y a eu beaucoup de malades, il y a même eu des décès. Moi, l'an dernier, j'ai perdu des membres de ma famille aussi. Donc c'est vrai que c'est des épreuves difficiles. Mais le Seigneur dit « Reviens, reviens parce que j'ai une bénédiction pour toi. J'ai une bénédiction pour toi Et je pense que dans le malheur, justement, il y a une autre chose qui vient, c'est que le Seigneur nous dit, nous demande de déposer aussi tout ce qui nous préoccupe. Et là, je dis, c'est comme la confession. Même si le mot n'est pas écrit, mais il dit, quand tu vas prendre conscience de toutes ces choses-là, et quand tu vas revenir au Seigneur, ça veut dire quelque part, tu vas aussi déposer devant Dieu tout ce qui a fait qu'il y a eu des malédictions ou des malheurs qui se sont abattus sur toi, ou qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ta confiance en Dieu, qu'est-ce qui t'a déstabilisé, qu'est-ce qui t'a ébranlé. Et là, chacun devant Dieu, personnellement, ou même en groupe, on apprend tous à déposer nos fardeaux, et aussi, c'est comme un sens, montrer notre faiblesse. Voilà ça que je veux dire. Montrer notre faiblesse. Et ça, selon les cultures, je sais, par exemple dans la culture asiatique en général, ou chinoise, c'est pas quelque chose qui est simple. De dire, moi je vais avouer à mon frère, je te connais pas, comment tu t'appelles ? Antoine.
André.
André, pardon, André. André, voilà. Ça, c'est un nom béni. Il a été appelé par Jésus. Je ne connais pas André, mais on va prier. Et je dis, ah, est-ce que je vais confesser, moi, ou en tout cas déposer, avouer mes défis personnels devant André pour que je prie pour qu'on prie ensemble, pour que lui prie pour moi, pour que moi, je prie pour lui. Est-ce qu'on va oser faire ça ? Mais si on ne le fait pas, quelque part, on manque une bénédiction aussi. Donc, je dis confesser aussi. Et vous voyez que ça rejoint finalement le message de l'Évangile. Et au cœur de tout cela, comme vous l'avez dit, il y a l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur qui dit « Choisis la vie », qui dit « Aime l'Éternel ton Dieu », qui dit « Reviens vers moi, mets ta confiance en moi, attache-toi à moi ». Vous savez, dans Deutéronome 6, le verset qu'on a cité tout à l'heure, Dieu a dit « Tu vas accrocher ces paroles de la loi, tu vas les graver dans ton cœur, tu vas les écrire sur les linteaux de tes portes, sur le haut de ta porte, pour t'en souvenir tout le temps. Elles seront sur tes murs, sur tes vêtements, partout où tu vas aller. » Donc je ne dis pas que demain, vous devez tous porter des t-shirts avec des versets de Deutéronome 30 et tout. Mais Dieu est très concret, il dit, pour que tu te souviennes de ces versets, de ces paroles que je te donne, il faut qu'elles habitent dans ta maison. Il faut qu'elles habitent chez toi. Que tu les transmettes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et qu'elles habitent en toi. Que cette parole, elle habite en toi. Et c'est ça le problème. Dieu a dit, Israël, je sais que vous êtes un peuple au cou raide. Et c'est pour ça qu'il a pris à témoin les montagnes, une d'un côté qui devait annoncer la bénédiction, l'autre où ils allaient proclamer les bénédictions. Et Dieu a dit, ce sera un témoignage pour vous parce que je sais que vous allez oublier, je sais que vous allez me renier. Et Dieu les prévenait déjà. Mais l'appel que Dieu donne, c'est crois, mets ta confiance dans le Seigneur. Il y a une phrase d'Augustin, saint Augustin, voilà, un des pères de l'Église, un des grands pasteurs de l'Église, si on peut dire, qui a dit cette phrase, « Seigneur, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. » Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui nous donne le pouvoir, la force, la volonté, le caractère, si vous voulez, de vivre selon sa justice. C'est pour ça qu'Augustin, en priant, dit « Donne, mets en nous, finalement, ce que toi tu ordonnes, c'est-à-dire ta loi. » Puisque là, vous voyez bien que dans la loi, c'est si tu obéis à ma loi, alors tu seras béni. Si tu n'obéis pas, alors tu seras maudit. Donc si tu n'obéis pas, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Et cette prière d'Augustin, moi, elle me touche parce que c'est vraiment, c'est juste. Seigneur, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux et commande-nous de faire ta volonté. C'est là où je dis qu'il ne faut pas aller trop vite à la grâce, c'est qu'il y a une tension. Et si on ne comprend pas cette tension, alors c'est presque si on réduit la grâce ou la croix à quelque chose qui était un passage rapide pour que nous, vraiment, on ait la bénédiction. Mais il y a une tension. Il y avait une tension. Dieu, il devait, c'est vrai, circoncire notre cœur, faire en nous une œuvre nouvelle. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et sans cela, ce n'est pas possible de faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas de dire « je suis sauvé par la grâce et je fais ce que je veux », c'est « je suis sauvé par la grâce et du coup, je peux accomplir tout ça. Je peux accomplir la loi parce que le Seigneur a mis en moi le pouvoir, la vie de l'Esprit pour accomplir la loi, pour vivre selon la loi, pour accomplir la justice. » Mais c'est la justice de la foi, évidemment. On n'est pas dans le salut par les œuvres, ce n'est pas parce que je fais ça que je suis sauvé. La loi disait, dans Galates, je ne vais pas lire le passage, mais si vous le voulez, pour ceux qui veulent approfondir l'étude, Galates 2, Galates 3, il dit que, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça rejoint cette idée. C'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'il dit, la justice, selon la loi, il disait, celui qui mettra en pratique toutes ces choses, il vivra. Ça, c'était Deutéronome, la loi. Si tu fais tout ça, tu vivras, tu auras la vie, tu seras béni. Alors, choisis la vie. Voilà. Mais c'est toi qui dois choisir. Dieu dit, si tu fais tout ça, tu seras béni. Mais Paul va dire, le juste, lui, il vit par la foi. La justice que Dieu voulait accomplir, c'est par la foi. Et aujourd'hui, nous, évidemment, notre justice, c'est par la foi en Christ qu'on la trouve. Donc, même si ce n'est pas écrit, moi je dis que c'est l'évangile de Moïse parce que c'est l'appel à croire. Pas seulement croire que Dieu existe, mais croire que Dieu est fidèle. Croire que Dieu va accomplir ses promesses. Croire que le Covid va être terminé parce que Dieu a un remède à tout. Et c'est lui qui accorde la sagesse aux médecins, même si ça passe par Pfizer, etc. et tous les autres. Eux, on sait qu'ils sont intéressés par l'argent. Mais Dieu nous fait grâce. Et il n'y a aucune épreuve qui nous survient, aucun fléau. La parole dit qu'il est au-dessus de nos forces, parce que Dieu, à chaque épreuve, il nous donnera les moyens d'en sortir. Donc c'est là où cette parole d'Augustin, « Donne ce que tu ordonnes », c'est Dieu qui nous donne les moyens de vivre selon la foi. C'est Dieu qui nous donne le moyen d'accomplir cette loi. C'est Dieu qui nous donne le moyen d'obéir à sa voix. Et au cœur de tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Voilà, l'œuvre de l'Esprit, c'est comme Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Il y a cette abondance de bénédictions que Dieu promet. Alors moi, dans le verset 9, j'ai une traduction qui dit « Le Seigneur ton Dieu te donnera le bonheur. » Le bonheur dans toutes tes actions. Dans le psaume 4, il y a un psaume qui dit, beaucoup disent, « Ouh, qui me fera voir le bonheur ?» Et ça, c'est la recherche de tous, n'est-ce pas? Tout le monde veut être heureux, avoir une bonne vie, une bonne santé, avoir des enfants qui grandissent, qui réussissent, etc. Donc, moi, je vois le pasteur Daniel, il y a ses enfants ici, je crois, c'est ça? Petits-enfants aussi? Petits-enfants, voilà. Tout le monde veut ça, n'est-ce pas? Moi aussi, je veux ça. Et le Seigneur dit, voilà, moi, c'est ce que je vais te donner, le bonheur, dans toutes tes actions. Je vais faire surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes et de ton sol, car le Seigneur se plaira de nouveau à ton bonheur. Dieu prend plaisir dans ton bonheur. Est-ce que vous savez ça? Dieu prend plaisir à notre bonheur? Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu prend plaisir à ton bonheur. Comme vous êtes assez loin les uns des autres, ça marche. Non. Mais ce bonheur, voilà, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça demande de passer par la circoncision. Alors nous, évidemment, on ne se fait plus circoncire aujourd'hui. Mais la circoncision, je vous rappelle, c'est une opération où on coupe une partie de la chair, du corps, jusque dans l'intimité de l'homme. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas une blague, l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Abraham, Isaac, Jacob et même Moïse, dans le récit d'Exode, de Théronome, on voit que Moïse, sa femme, va dire à un moment « Tu es un époux de sang pour moi » parce que son fils n'était pas circoncis. Elle a dû le circoncire. Parce que ça, c'était l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple hébreu. Et pour nous, même si on ne fait pas la circoncision du cœur, l'équivalent de la circoncision pour nous chrétiens, c'est le baptême. C'est un signe de cette alliance qu'on fait où tous ceux qui ont été baptisés... qui est baptisé ici? Qui a été baptisé? Oui? Il y en a qui n'ont pas été baptisés? Non? D'accord, vous avez tous été baptisés. Ok, prochainement peut-être, à suivre. Et donc, le baptême pour les chrétiens, c'est cette idée de « nous, on fait l'alliance avec Dieu aussi ». C'est comme un rite où on dit « mon ancienne vie est passée, maintenant je vis par Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et je vis pour Christ aussi. Ça veut dire on rentre dans l'alliance avec Dieu. C'est du sérieux aussi. C'est une relation où on dit « je m'engage à suivre le Seigneur ». Et si j'agis mal, moi, ou Philippe, ou le pasteur Daniel, ou un frère, une sœur parmi nous, on accepte de dire « la communauté peut me reprendre aussi ». Peut me dire « ah, tu t'es engagé à suivre le Seigneur, mais il y a des choses où je vois que tu suis le monde. Donc reviens, Seigneur ». Et quand on s'engage dans cette alliance, c'est pareil, le Seigneur, Il ne va pas nous rappeler Deutéronome, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Mais le Seigneur a dit, si c'est lui qui veut être mon disciple, il doit porter sa croix. S'il ne hait pas son père, sa mère, il ne peut pas me suivre. S'il n'est pas prêt à abandonner ses terres, toutes ses possessions, il ne peut pas me suivre. Donc il y a ce prix de la grâce aussi. Alors ça, c'est un magnifique passage, si vous voulez lire le prix de la grâce du pasteur Dietrich Bonhoeffer, où il parle de ce coût de suivre le Seigneur, le prix de suivre le Seigneur, le prix du disciple. Voilà. Mais le Seigneur, il donne la bénédiction en abondance, la vie éternelle. Il parle du pays aussi. Il a promis à Israël un pays, et pour nous, c'est le royaume de Dieu. Jésus a dit, le royaume de Dieu vient. Et nous, notre désir en tant que chrétiens, c'est de voir le royaume de Dieu venir sur la terre. De dire qu'on veut vivre ce royaume-là, dans l'Église, dans nos communautés, mais on prie pour que ce royaume vienne ici, qu'il s'accomplisse. Et donc, au final, on voit dans le Deutéronome 30 plein de motifs que Jésus va accomplir parfaitement. Enfin, il y a le témoignage. Donc, j'ai dit, écoute, je sais qu'il y a des groupes d'ados après, j'ai promis de rappeler les mots qui peuvent retenir. Écoute, reviens vers le Seigneur, la repentance, confesse devant Dieu. Quand le malheur t'arrive, réfléchis, confesse, dépose tout devant le Seigneur. Crois, aime, mets ta confiance en Dieu. Voilà, crois. Et enfin, témoigne, deviens un témoin. Deviens un témoin de l'Évangile, un témoin de Christ, un témoin de l'amour de Dieu. Dieu avait dit, je vous ai sauvé à bras étendus. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est ce qu'il dit avant de donner la loi. Il dit d'abord, c'est moi qui ai agi dans votre vie. C'est moi qui interviens dans votre vie. Le Seigneur veut sauver, il veut encore bénir, il veut encore donner la vie. Et c'est sûr qu'il y a des personnes que vous côtoyez, soit dans vos familles, soit vos collègues, vos connaissances, autour de vous, des gens qui, eux, sont dans la déprime, des gens qui, eux, n'ont pas cette espérance. Mais vous, vous pouvez leur transmettre, parce que Dieu a dit qu'il veut que toutes les nations de la terre soient bénies à travers Israël. C'est vrai, il a dit que je te ramènerai de toutes les nations dispersées. Ça, c'était Israël. Mais nous, l'Église, c'est le contraire. Jésus est parti de Jérusalem et il a dit, vous serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre. Dieu nous envoie partout en mission. Et donc, Dieu nous envoie en témoins. Et il y a cette idée de témoignage dans Deutéronome 30 où Dieu dit, je prends un témoin. Là, c'est un peu dur pour Israël, hein, mais c'est, je prends un témoin aussi le ciel et la terre. La loi, les paroles que Dieu a données, elles servent de témoignage aussi. Les bénédictions et les malédictions, ça sert de témoignage pour rappeler. Mais Dieu dit tout cela, c'est pour que vous ne puissiez pas dire qui entendra le message ? Comment je croirai ? Et Paul va dire, comment y croiront les gens autour de nous s'ils n'ont pas entendu l'Évangile ? Et comment ils entendront si personne ne prêche ? Alors, dans ce passage de Deutéronome, il y a déjà une préfiguration de ce témoignage que nous, en tant que chrétiens, nous portons. Et voilà pourquoi je dis que c'est l'évangile de Moïse, c'est qu'au final, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur veut annoncer. Que même si Dieu avait donné la loi était un pédagogue pour nous amener jusqu'au Christ, et que la pleine réalité de tout cela s'accomplit en Christ, et que c'est seulement grâce au sacrifice de Christ qu'aujourd'hui, oui, nous pouvons dire que nous avons cette bénédiction, mais elle a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Elle a coûté la vie... Elle a coûté le corps et le sang du Seigneur pour que nous, aujourd'hui, oui, nous puissions vivre dans ses bénédictions, vivre dans ses promesses. Et comme le Seigneur a dit, voilà, si tu reviens, j'aime bien cette traduction ici, dans la Tob, le Seigneur ton Dieu changera ta destinée, il te montrera sa tendresse. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Verset 3, c'est... J'arrive pas à voir. Compassion de toi. Voilà. Il changera ta destinée, il te montrera sa tendresse. Et le Seigneur, moi je suis convaincu, c'est ce qu'il veut faire pour vous, c'est ce qu'il veut faire pour notre frère qui a perdu son activité ou a diminué en tout cas, c'est ce qu'il veut faire pour chacun de nous et même aussi pour les personnes qui nous entourent. Voilà, je voudrais vous inviter à un temps de prière. Je ne sais pas si Est-ce que Clément, je peux utiliser? Parce que comme il y a les normes et tout ça, après ça... Enfin, tu seras obligé après de tout nettoyer. Ça te gêne pas? Ok. Je dis ça parce que normalement, entre musiciens, on se prête pas trop les instruments avec toutes les normes en ce moment.
Merci Clément.
Utiliser celui-là? Oui, ok, merci. Et je voudrais du coup, pour conclure, vous inviter juste à écouter un chant qui cette fois est, s'inspire du Nouveau Testament, mais qui dit bien que le Christ est venu accomplir tout cela, mais il dit aujourd'hui, vous aussi, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce qu'Israël, quand ils ont entendu toutes ces paroles, ils se sont endurcis vis-à-vis de Dieu. Et dans ce passage, c'est Hébreux 1, on nous dit que du coup, toutes ces promesses, toutes ces bénédictions pour eux, elles ont été en vain, elles ont été inutiles, parce qu'elles n'ont pas trouvé la foi. Et je voudrais vous encourager ce matin, vraiment, mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta foi en Dieu. Parce que tu vois, toutes ces promesses que le Seigneur nous donne, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Dieu a dit, il veut ton bonheur. Il prend même plaisir à ton bonheur. Mais le Seigneur veut nous aussi qu'on revienne à lui de tout notre cœur, que là où parfois nous sommes défaillants, même si les autres ne voient pas, mais le Seigneur, lui, le sait, et qu'on mette toute notre confiance en lui. Alors voici, il vit.
Avoir maintes fois par ses prophètes témoigné, ce à travers bien des voies et les temps éloignés. Au jour de la fin, il vint par le Fils nous parler, pour nous dire l'unique voie, celle de la vérité. En lui se révèle sa beauté, sa gloire rayonne. Il est l'expression dévoilée et pure de sa personne. En lui toutes choses furent créées, à lui seul tout retourne. Venu s'offrir pour nous sauver, il siège sur le trône. Voici, il vit, il a vaincu la mort. Traverser les cieux pour nous, et c'est à lui que Dieu a soumis le monde et donné tout pouvoir. Pour un temps humilié, il règne désormais, couronné d'honneur et de gloire. Et tous le verront devant le ressuscité, déchirons le genou. Aujourd'hui c'est pourquoi, voici ce que dit l'Esprit, si vous entendez sa voix, ouvrez-vous donc à lui. Ne soyez pas obstinés face au Seigneur de la vie. N'osez pas mépriser un don de si grand prix. Chaque jour que le ciel vous donne, ravivez votre ardeur. Et ne laissez rien ni personne vous ravir ce trésor. Car notre vie demeure cachée jusqu'au jour du Seigneur. Venant sur les nuées, il rassemblera son corps. Voici, il vit, il a Père céleste pour nous. Et c'est à lui que Dieu a soumis le monde et donné tout pouvoir. Un temps humilié, il règne désormais, couronné d'honneur et de gloire. Le verrons devant le ressuscité, déchirons le genou. Ouvrez-vous donc à lui, ouvrez vos cœurs, il appelle, ouvrez vos cœurs, il appelle.
Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nous voulons mettre notre confiance en toi, cet après-midi, pardon. Nous voulons mettre notre confiance en toi, Seigneur. Placer toute notre confiance en toi, Seigneur. Et te montrer aussi dans notre vie, de tous les jours, dans nos choix, le temps que nous accordons à telle ou telle activité, Seigneur. L'attention que nous donnons, l'importance que nous donnons, Seigneur, à certaines relations, certaines activités, ce dans quoi aussi nous dépensons nos biens, notre investissement et même notre argent. Nous voulons démontrer, Seigneur, que c'est toi qui as la priorité, que c'est toi qui as la première place, que c'est toi que nous choisissons. Nous voulons t'aimer de tout notre être, tout notre cœur, toute notre âme, Seigneur. Et nous voulons choisir la vie, nous voulons choisir le Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous pour votre écoute.